Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague, une actualité dont voici les principaux titres. Le ministre Tomáš Petříček représentera la République tchèque à la conférence de Munich sur la sécurité qui se tiendra ce week-end. Le légendaire explorateur Miroslav Zsigmond fête ses 100 ans ce jeudi. Et puis enfin en sport, en football, le Viktoria Plzeň et le Slavia Prague sont en lice en Ligue Europa ce jeudi soir. Le Premier ministre Andrej Babiš étant en vacances jusqu'à dimanche, où il participera au congrès du mouvement ANO qui devrait aboutir à sa réélection en qualité de président, c'est le ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček, qui participera à la traditionnelle conférence sur la sécurité à Munich, c'est samedi et dimanche. Le chef de la diplomatie tchèque interviendra dans le cadre du panel consacré à la faculté de l'Europe à se défendre seule à l'ère de la concurrence des grandes puissances. Rendez-vous annuel parfois désigné comme le Davos de la défense, la conférence aura pour thème cette année la course aux armements nucléaires, les relations de l'Ouest avec l'Iran, l'avenir de l'Alliance transatlantique ou encore la recrudescence du populisme de droite. Quelques 40 chefs d'État et de gouvernement et 80 ministres sont attendus en Bavière pour cette 55e édition annoncée comme une des plus importantes de l'histoire. Légendaire explorateur et écrivain Miroslav Zsigmond, qui est né le 14 février 1919, fête ses 100 ans ce jeudi. Tout au long de cette semaine, de nombreux hommages sont rendus dans les médias à cet homme qui a contribué à faire découvrir le monde aux Tchécoslovaques dans la seconde moitié du XXe siècle. Accompagné de Jiří Hanzalka, avec lequel il voyageait dans des véhicules du constructeur Tatra, Miroslav Zsigmond a parcouru le monde à une époque où les Tchécoslovaques et la majorité des Européens de l'Est ne pouvaient voyager au-delà des frontières des pays du bloc communiste. Nous reviendrons sur ce 100e anniversaire donc de Miroslav Zsigmond dans quelques instants et plus en détail dans la rubrique Faits et événements. Quelques 13 000 femmes propose des services sexuels payants en République tchèque selon des données fournies ce jeudi par l'association Rozkoš bez rizika, en français le plaisir sans risque. Plus de la moitié de ces prostituées sont des mères célibataires. Leur âge moyen est de 30 ans et 82% de ces femmes sont tchèques, contre environ 60% il y a encore 10 ans de cela. Par ailleurs, 13% de ces femmes ont au moins 3 enfants. Selon l'association qui lutte contre les préjugés et dont la mission consiste à aider les prostituées, il convient toutefois de considérer ces chiffres avec réserve. De nombreuses femmes n'avouent pas en effet la nature de leur activité, préfèrent garder l'anonymat. Le but à plus long terme de l'association est de parvenir à une décriminalisation de la prostitution et ainsi donc à sa reconnaissance légale en République tchèque. On passe au sport et d'abord au football. Deux clubs tchèques sont encore en lice en Ligue Europa alors que se disputent ce jeudi soir les matchs allés des 16e de finale. Troisième de son groupe en Ligue des Champions à l'automne dernier, le Viktoria Plzeň accueille le Dynamo Zagreb. Pour cette rencontre entre les champions de République tchèque et de Croatie en titre, le club de Bohême de l'Ouest peut compter sur les services de son nouvel attaquant français, Jean-David Bogel, arrivé en provenance de Zlín lors de la trêve hivernale. De son côté, le Slavia Prague accueille Genk pour un duel qui opposera les actuels leaders des championnats de République tchèque et de Belgique. Un mot de basket également, l'USK Prague a battu Villeneuve-d'Ascq 84 à 68 mercredi soir devant son public à l'occasion de la 13e et avant-dernière journée de la phase de poule comptant pour l'Euroligue féminine de basket. Cette victoire contre les Françaises, la 9e dans la compétition depuis le début de saison, permet au club de la capitale tchèque d'assurer sa qualification pour les quarts de finale. On termine ce bulletin avec un mot de météo. Après un jeudi aux allures de première journée printanière de l'année, le soleil reste de mise sur l'ensemble du territoire ce vendredi. Vendredi qui sera le jour de la fête des Irgina, comprenez Georgette en français. Le soleil restera ensuite très présent également tout au long du week-end. Quant aux températures, elles varient entre 8 et 10 degrés, tandis que le soleil se lève à 7h10 et se couchera à 17h18. C'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. On retrouve maintenant Anna Kubishta. Anna qui nous accompagne avec sa jolie voix pour la suite de ce programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information complet. À l'âge de 100 ans, le célèbre globe-trotteur tchèque Miroslav Zygmunt n'a rien perdu ni de sa verve ni de son énergie. Portrait en début d'émission. Nous retrouvons ensuite la spécialiste tchèque des recherches archéologiques subaquatiques. Et puis ensuite, Saint-Valentin oblige, nous vous proposerons un tchèque du bout de la langue consacré au mot « baiser ». Mais vous le verrez, il y a des variantes assez particulières de ce qui devrait être réservé surtout aux amoureux. Bonne écoute de ce programme. Si les voyages forment la jeunesse, ils peuvent également assurer une impressionnante longévité. C'est à tout le moins le cas pour Miroslav Zygmunt, l'un des plus grands aventuriers tchèques qui, après la Seconde Guerre mondiale, a sillonné le monde avec son ami Jiří Hanzelka. Ce jeudi, Miroslav Zygmunt fête en effet ses 100 ans, l'occasion de revenir sur la vie hors du commun de ce globe-trotteur. À la fin des années 1940, ni EasyJet ni Ryanair n'existaient pour faire des sauts de puce entre les pays. D'ailleurs, quand germe l'idée de voyager dans la tête des deux jeunes hommes, fraîchement diplômés d'une école d'ingénierie commerciale, ce n'est certainement pas pour faire du tourisme tranquille. Leur projet a tout d'une expédition digne de celle des plus grands explorateurs d'antan, la motorisation en plus. C'est en effet à bord d'une voiture Tatra T87 que Miroslav Zygmunt et Jiří Hanzelka partent en 1947 pour 3 ans, sillonnant plusieurs pays d'Afrique avant de prendre le large vers l'Argentine et visiter la plupart des pays d'Amérique latine. Interrogé en 2014 au moment de la sortie du film documentaire « Le siècle de Miroslav Zygmunt » réalisé par Peter Horki, l'explorateur, aujourd'hui centenaire, était revenu sur l'entente qui régnait entre les deux hommes, une complicité sans laquelle rien de tout cela n'aurait été possible.
Si je devais condenser tout cela, je crois que le fait d'être passé par des moments et des expériences parfois désagréables, par des dangers quasi quotidiens, a forgé l'acier, comme on dit. Je crois que c'est parce que l'on a vécu justement ces moments dangereux avec Jirka que notre amitié a été de ce fait renforcée, consolidée. Une fois nous avons réfléchi sur la question, et si un jour un de nous deux perdait la vie, ou si un de nous deux était sévèrement blessé, que ferais-tu ? Et Jirka m'a répondu, « Et toi, qu'est-ce que tu ferais ? Tu chercherais un autre compagnon de route ?» Nos deux réponses étaient catégoriques. Non, cela aurait été la fin du voyage.
Ensemble, Miroslav Zygmunt et Jiří Hanzelka ont parcouru au total 6 continents et 114 pays au cours de leurs 2 célèbres expéditions. De leurs aventures naissent 22 livres, 293 récits de voyage, mais aussi et surtout plus de 700 reportages pour la radio tchèque. Il est presque étonnant d'imaginer ces deux intrépides librement voyager à travers le monde alors que la majeure partie de la population tchécoslovaque est alors coincée derrière le rideau de fer. Mais il faut rappeler que le début de leur voyage remonte à 1940. Et ils sont au Congo belge lorsqu'ils apprennent en février 1948 le coup de Prague. Un temps d'ailleurs, Miroslav Zygmunt envisagera d'émigrer avant d'y renoncer. De manière assez paradoxale, un peu à l'image des grands sportifs tchécoslovaques à l'époque, le régime communiste doit bien s'accommoder de ces deux globe-trotteurs qui, après tout, et sans doute bien malgré eux, contribuent à la renommée de la Tchécoslovaquie socialiste dans le monde. Pourtant, la lune de miel s'achèvera brutalement en 1968. Les deux hommes, engagés dans le processus de libéralisation du printemps de Prague, deviennent persona non grata après l'invasion soviétique et ne pourront plus voyager avant la révolution de velours. Leurs livres sont interdits de publication et les interrogatoires de la police politique, la STB, sont fréquents.
Je me rendais à chaque fois à ces interrogatoires avec une peur bleue. Cela n'avait vraiment rien de rigolo. Au dernier moment, et principalement tout juste après 1989, de nombreux volumes de ces dossiers ont été détruits, le mien y compris. Cela m'a contrarié parce que j'aurais bien aimé savoir qui me dénonçait.
Après 1989, Miroslav Zygmunt recommence à voyager. Le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Sri Lanka viennent s'ajouter à son palmarès. Se penchant rétrospectivement sur les difficiles années qui suivirent leurs deux plus grandes aventures, Miroslav Zygmunt envisageait en 2014 les choses de manière philosophique et détachée, une manière d'appréhender la vie dont on peut imaginer qu'elle a grandement contribué à sa longévité.
Il y a des choses qu'il ne faut pas regretter, car si vous commencez à avoir des regrets par rapport au passé, vous gâchez votre bonne humeur. Cela n'a pas de sens que de regretter quoi que ce soit et dire que telle ou telle chose se serait passée ou aurait pu se passer autrement. Si vous arrivez à vous débarrasser de cela, alors vous êtes libre comme un oiseau.
Tak jste jak ten pták volný.
Depuis la préhistoire, les hommes ont un lien privilégié avec les sources d'eau. Dans les pays tchèques, comme ailleurs, les rivières et les lacs ont représenté un lieu attractif pour l'homme, qui les a modifiés et exploités pour ses besoins, mais pour lequel les cours d'eau étaient aussi des lieux de culte. Tous ces aspects fascinent et intriguent les chercheurs spécialisés dans l'archéologie subaquatique, divisée généralement en archéologie sous-marine et celle pratiquée en eau douce. Pionnière des recherches archéologiques subaquatiques en République tchèque, Barbora Machová de l'Institut d'archéologie a raconté au micro de Magdalena Hrozinková les débuts de la discipline dans son pays.
Diplômée de l'université Masaryk de Brno, Barbora Machová a récemment mené des fouilles archéologiques dans la rivière Vltava à Prague, à proximité du pont Charles. Une prospection très médiatisée qui a permis de populariser l'archéologie subaquatique encore très peu connue en Tchéquie. Barbora Machová se souvient de ses propres débuts dans ce domaine.
J'ai commencé à pratiquer la plongée à peu près 2 ans après avoir commencé mes études d'archéologie, dans le cadre desquelles je me suis spécialisée dans l'étude des champs de tumuli. Pendant longtemps, je n'ai pas pensé à relier les deux activités. En préparant mon doctorat, j'avais envie de commencer quelque chose de nouveau. À cette époque, j'en ai appris davantage sur l'archéologie subaquatique. J'ai vu que les fouilles en eau douce étaient réalisées en Hongrie et en Slovénie, où cette pratique avait une tradition centenaire. Je me suis dit qu'il serait sans doute possible de faire aussi ça chez nous. La différence entre les deux types d'archéologie subaquatique est énorme. J'aime pratiquer les deux, même si je trouve l'archéologie en eau douce plus intéressante. D'ailleurs, je n'aime pas utiliser le terme d'archéologie sous-marine, car il s'agit toujours d'archéologie subaquatique, qu'elle soit pratiquée en eau salée ou douce. À l'étranger aussi, les archéologues pratiquent en général les deux types de fouilles, car la méthode de travail en mer et en rivière est presque identique.
L'archéologie des mers, elle est différente dans le sens que tam se nachází 99% vlastně všech nálezů.
L'archéologie des mers et des océans est différente, dans le sens où l'on y trouve essentiellement des épaves. Les navires et les marchandises qu'ils transportaient représentent 99% des trouvailles archéologiques dans les mers. Il s'agit de navires de l'époque romaine, chargés d'amphores que l'on trouve en Méditerranée, ou encore des épaves du Moyen-Âge. Tandis que chez nous, il existe une grande diversité d'objets anciens que l'on peut trouver dans les cours d'eau et les lacs.
Vlastně v sladkých vodách je to mnohem jako variabilnější. Ten sortiment těch věcí ve vodě je mnohem širší.
Quels sont alors ces vestiges du passé cachés au fond des rivières et des lacs, Barbora Machová?
Dans les fleuves allemands, slovènes ou français, il est possible de trouver des restes de ports et de môles. Dans la région des Alpes ou encore en Pologne, il existe souvent dans des lacs des vestiges de maisons sur pilotis datant de l'âge de pierre.
Avec son équipe composée d'une vingtaine de personnes de professions différentes qui pratiquent la plongée pour le plaisir, Barbora Machová a effectué des fouilles archéologiques dans les eaux de l'Elbe et de la Vltava, ainsi que dans les rivières Dyje et Morava, sans oublier les barrages d'Orlik et de Dalešice. Les recherches archéologiques menées par Barbora Machová précisément dans les rivières Dyje et Morava, ainsi que les travaux de régulation qui ont été effectués au cours du XXe siècle ont donné lieu à la découverte de pas moins de 200 objets anciens.
Il s'agit principalement d'objets métalliques, des armes, des couteaux, des fossiles, des haches, ainsi que des instruments utilisés à l'âge de pierre. Auparavant, une quarantaine de pirogues monoxyles ont également été découvertes dans les rivières tchèques. Ce sont des embarcations construites à partir d'une pièce de bois unique, taillée dans un tronc d'arbre. Elles témoignent, elles aussi, de l'utilisation intense de ces cours d'eau au fil des siècles.
Ta řeka byla intenzivně využívána jako vlastně v celé té historii naší.
Et si l'archéologie subaquatique en République tchèque en est encore à ses débuts, marquée par un manque de moyens financiers et d'équipements de pointe, ce sont toutefois des débuts prometteurs. Et Barbora Machová, qui vient d'ailleurs de nouer des liens avec ses collègues de l'Université de Bourgogne, s'en réjouit.
À l'automne 2018, nous avons organisé en République tchèque, en collaboration avec le Centre international d'archéologie subaquatique de Zadar, en Croatie, un premier cours de formation destiné aux étudiants tchèques en archéologie. Ils étaient 3 à y participer, ainsi que 2 jeunes archéologues originaires de Norvège et de Russie. Je suis contente que chez nous, de plus en plus d'archéologues commencent à se familiariser avec notre méthode. Nous sommes très peu nombreux dans le monde à la pratiquer. Cela nous oblige à collaborer au niveau international. Nous sommes une petite communauté. Lorsque nous nous rencontrons dans des conférences, nous sommes une quarantaine d'archéologues plongeurs, mais venus de 15 pays différents. Ce partage de nos expériences est toujours intéressant et enrichissant. Et tout de suite, je vous propose la rediffusion d'une rubrique consacrée à la langue tchèque, une rubrique aujourd'hui dont le thème sera le baiser. Guillaume Larguet.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Si l'apprentissage du tchèque est parfois un peu compliqué pour tous ceux qui se lancent dans l'aventure, c'est bien entendu à cause de la grammaire, des exceptions et de plein d'autres choses encore, mais aussi parce qu'il existe de nombreux mots qui se ressemblent très fortement dans leur forme et qui pourtant n'ont absolument pas la même signification. C'est le cas par exemple des mots
polibek
et
polichek.
On ne vous en dit pas plus.
Pas mal de fois, je confonds des mots. Je me souviens que tel mot a 5 lettres, qu'il a un K et un T quelque part, et puis un R, et donc je remplis un peu les vides, et il se trouve que c'est pas ça.
Dans notre dernière émission, Aude Pasquier, un de ces francophones qui parle tchèque, auquel nous consacrons une série depuis quelque temps, nous avait raconté la mésaventure qui lui était arrivée dans un restaurant tchèque.
Par exemple, j'ai aussi une fois recommandé à quelqu'un qui a des enfants un café-restaurant parce que je le trouvais très agréable, que c'était non-fumeur et qu'il y avait dietski kousek. Donc un morceau d'enfant à la place de kousek, évidemment le coin pour les enfants. Et donc voilà, ça donne, en général, ça m'arrive, oui, presque dans chaque conversation de transformer des mots comme ça. Et donc c'est souvent la rigolade générale avec mes amis tchèques quand j'invente des choses parce que tout le monde comprend. Mais pour moi, ces mots qui se ressemblent sont assez difficiles.
Cette mésaventure pourrait très bien se produire avec d'autres mots qui, étymologiquement, n'ont aucun rapport, mais qui, formellement, se ressemblent beaucoup.
Polybag, polybag, polybag. tvůj splácíš polibek, 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 tak ztrácíš polibek, 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 určitě má.
Cela est le cas avec les mots
polibek
et
polichek,
à savoir un baiser et une gifle. Il est là aisé de reconnaître que d'un point de vue étymologique, et pas seulement d'ailleurs, recevoir un baiser ou donner un baiser et être giflé ou gifler quelqu'un, lui donner une baffe, n'est effectivement pas tout à fait la même chose. Cela n'enlève rien au fait que ces deux mots de cette lettre sont formellement quasi identiques, à l'exception donc d'une seule de leurs lettres, si au lieu de... Anna Zagorova et ses deux acolytes reprenaient le même refrain en replaçant le mot
polibek
par
polichek.
Cela nous donnerait alors quelque chose comme une gifle appartient aux amours et aux amoureux et pas seulement aux super beautés. Alors, on veut bien admettre que même cette version ne serait pas totalement saugrenue, car après tout, on connaît des histoires d'amour où une gifle perdue ici ou là fait partie de la relation, mais le succès de la chanson, reprise d'un célèbre tube italien du début des années 80, n'aurait alors probablement pas été le même. Mais l'objet de notre attention ne peut être ce piccolo amore, petit amour, même si on peut ici supposer que l'auteur de la version tchèque a trouvé avec
polibek
un mot qui, avec ses trois syllabes et sa première lettre P, se rapproche rythmiquement beaucoup de l'italien piccolo. Une trouvaille d'autant plus juste que
polibek
ne signifie pas seulement baiser, mais peut aussi désigner un bisou dans cette chanson.
Polibek
serait donc en quelque sorte le bisou d'un piccolo amore, c'est-à-dire le bisou d'un petit amour. Mais intéressons-nous de plus près également à l'aspect étymologique de ce mot
polibek.
En cherchant un peu, on apprend qu'il s'agit là d'un substantif dérivé du verbe
libat,
embrasser, et dans la famille duquel se range également par exemple le mot
libanke,
lune de miel, à savoir donc une période censée être la plus heureuse d'un jeune couple et durant laquelle les
polichke,
les gifles, n'ont normalement pas leur place. Notez là que nous avons affaire à des mots, tout ce qu'il y a de plus tchèque, dans la mesure où on ne trouve nulle trace dans les autres langues slaves de mots ressemblants ou similaires pour désigner un baiser ou un embrassement.
Libagne.
Néanmoins, tous ces mots ont quand même une origine commune, une origine qui provient du proto-slave, une langue aussi appelée slave commun, qui était l'ancêtre du vieux slave et de l'ensemble des langues slaves. Cette origine commune est donc le verbe
lubiti,
qui signifie
milovat
en tchèque, aimer en français.
Ya tibia ljubiu.
Retranscrit phonétiquement, disent ainsi par exemple les Russes pour je t'aime.
Milujte.
On peut donc affirmer que ces mots typiquement tchèques que sont
libat
et
polibek
proviennent de l'ancienne appellation de l'amour
milovani,
qui sert aujourd'hui à désigner l'acte amoureux, et
laska,
qui désigne lui le sentiment amoureux. S'il n'est pas besoin de vous faire un dessin, rappelons quand même qu'un baiser consiste à effleurer, toucher de ses lèvres quelques parties d'une personne, le plus souvent sa joue, son visage ou sa main, par amitié ou par civilité, ou à presser ses lèvres sur la bouche d'une autre personne, alors en signe d'amour. Mais pourquoi ce rappel évident, vous demandez-vous peut-être? Eh bien parce qu'un des synonymes en tchèque du mot
polibek
est
pusa.
Or ce mot
pusa
possède deux sens, celui de baiser, bise ou bisou, mais aussi celui de bouche. D'ailleurs, les Tchèques utilisent davantage dans la vie quotidienne le mot familier
pusa
que
polibek,
dont l'usage est lui plus soutenu et littéraire. Ainsi, le premier baiser des nouveaux époux lors de leur cérémonie de mariage se dit
svatebni polibek
et non pas
svatebni pusa.
De même que le baiser de la mort au sein de la mafia se dit
polibek smrti
et pas
pusa smrti.
Před 33 lety byl u nás v Československu Leonid Iljič Brežněv poprvé. I tehdy jej kyticemi šeříků uvítal mír, pro jehož zajištění nelituje svých sil, jemuž zasvětil svůj život, ať už v uniformě vojáka nebo ve funkci politika, neboť dobře zná jeho nezměřitelnou cenu.
Et lorsque les camarades Leonid Brejnev, dirigeant de l'URSS, et Gustav Husák, président de la République socialiste tchécoslovaque, s'embrassaient sur la bouche, les médias évoquaient ce baiser de la fraternité en parlant bien entendu de
Polibek,
plus précisément de
Soudruski Polibek,
littéralement le baiser des camarades. Notez que ces baisers torrides de la guerre froide, qui symbolisaient un amour mortel entre les hauts représentants des pays communistes, faisaient penser à ce que les Tchèques appellent un
Francouzák.
Zkusíme to znova. Jen tentokrát ti strčím jazyk do pusy. A chci, abys mi ho třela svým jazykem, tomu se říká první meta. Dobře, zavři oči.
Francouzák.
Un terme d'argot qui sert à désigner ce que les Tchèques considèrent être un baiser à la française.
Francouzský polibek.
C'est-à-dire embrasser une personne sur la bouche en se servant de la langue et bien entendu avec les lèvres gourmandes. Bref, rouler une pelle, un palot, un patin ou rouler une galoche, on vous laisse choisir. Oui,
to je paráda.
Comme le disent les Tchèques, mais revenons au mot
pusa.
Pour encore préciser qu'il s'agit d'un mot relativement récent de la langue tchèque, puisqu'il n'est apparu que vers le milieu du 19e siècle. Et figurez-vous qu'il a pris son sens de
polibek
à partir de l'allemand
bus.
Un mot qui est en fait une onomatopée, à savoir une interjection émise pour simuler un bruit particulier par l'imitation d'un son, dans le cas présent, le bruit d'un baiser. Enfin, précisons encore que ce mot
« poussa »
dans son sens de baiser peut nous faire penser au mot d'argot français « beco » dérivé de « bec » qui désigne à la fois la bouche et un baiser.
Il est content ? C'est bon ça, hein ?
Pour qui qu'elle a cuisiné, ma reine ?
C'est ma reine qui a fait.
Pour qui qu'elle a cuisiné ?
Pour son fifiche, non, que c'est mignon ça, hein ?
Allez, fais un beco à ma reine, pour dire merci à ma reine.
Allez là.
Ouais.
Et puis l'autre, sinon, elle est jalouse, hein ? Voilà.
Pas beco à part, hein ? Allez.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les baisers tchèques que ces derniers appellent aussi parfois tendrement des
Hubičky,
diminutif du mot
huba,
la gueule que l'on pourrait interpréter comme des petites gueules, mais qui sont donc des bisous, des petits baisers. On se quitte là-dessus et profitez-en, car dans une prochaine émission, c'est au mot
Poliček
que nous nous intéresserons et il ne s'agira alors plus de se bécoter. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
La fin de notre émission en français sur Radio Prague. Merci de l'avoir suivi. Tous ces sujets, retrouvez-les bien évidemment également sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre page Facebook, mais également sur notre compte Twitter. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.